Voilà, à vous la parole. Alors, je ne sais pas où...
Alors, est-ce que nous avons...
Bonjour. En attendant la technique, donc, je suis Gérard Mick, je suis neurologue, mais je ne suis pas là à ce titre. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille avec les patients douloureux chroniques depuis des années. Donc, et à ce titre, j'ai souvent affaire au monde de la psychiatrie et j'ai appris effectivement beaucoup de choses. Donc, je remercie Pascal Marotti de m'avoir permis de donner quelques réflexions, de partager avec vous quelques réflexions qui sont issues de discussions assez longues que j'ai eues avec certains autres acteurs de la santé publique. Alors, je cite Marie-Dominique Lucier, qui est gériatre et qui est à l'ANAP, qui s'occupe aujourd'hui de l'évaluation des parcours PAERPA. Je cite Michel Sabi, qui est à la fois un collaborateur, un ami, mais également mon président de réseau, et qui est donc au centre hospitalier Alpizère, mais également Gilles Poutou, qui est chargé de mission à l'ARS Île-de-France. Alors, c'est intéressant parce que il va falloir que je trouve... Voilà le bon bouton. Le bon bouton, ben, c'est vers moi. Voilà, mais il faut aller vers... Voilà. Donc ça, c'est chez nous, ça. C'est pas chez les psychiatres, c'est la médecine d'organes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle, elle a longtemps capitalisé sur le médecin hospitalier et le médecin traitant, à la fois. Et finalement, je me dis que ça, c'est notre médecine de parcours. Et c'est comme ça qu'on la voit. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de lisibilité sur ce qui se passe vraiment. On est dans un domaine que vous connaissez très bien, qui est le domaine de l'incertitude et de la complexité. Je ne veux plagier personne. Mais dans la médecine d'organes, on n'y pense absolument pas. Et donc, on demande à tout le monde de faire le bon entre la médecine d'organes et la médecine de parcours. Alors, je me dis qu'on a peut-être des outils modernes. C'est peut-être ça. Donc, et les outils modernes, ben, j'ai failli mettre sur cette diapositive... l'exercice regroupé, mais ça allait faire un petit, ça allait rappeler les maisons, les pôles de santé qui ne sont pas dans cet esprit-là. Non, ça, c'est la coopération entre les acteurs. Et quelque chose que j'ai ressenti, moi, en psychiatrie, c'est que la coopération avec le médecin traitant peut être difficile. C'est une chose dont on a absolument besoin, nous, pour s'occuper des patients douloureux chroniques qui, pour plus de 50%, présentent également une comorbidité psychiatrique sévère. Et donc, c'est un aspect qui m'a beaucoup touché. Donc, on est un petit peu à la croisée des chemins ici. Donc, en gros, c'est un changement de paradigme. Avant, bah, c'est j'arrive à la consulte, j'ai mon diagnostic, mon traitement, et je m'en vais. Et ensuite, maintenant, il faut penser complètement différemment. On est dans un dispositif. Vous l'avez fait avec le secteur il y a bien longtemps. Le patient est évalué par une équipe multidisciplinaire. Mais quand se réunit-elle autour du patient et quand a-t-elle le temps? Il bénéficie d'un plan de prévention et d'un traitement personnalisé en fonction du profil de besoin et de risque. Vous connaissez ça par cœur. On commence à peine à le découvrir en médecine d'organes. Et peut-être... en coopération entre acteurs pour des parcours de santé globaux. Et enfin, le patient participe activement. Ça, c'est la nouveauté, notamment ceux qui ont le choix ou le consentement éclairé. Aux soins, il est accompagné par un réseau d'acteurs. Il est accompagné par un réseau d'acteurs et le patient va poursuivre sa relation avec les professionnels et il est suivi à distance. Et ce mot « suivi à distance » fait référence à la télémédecine ou à l'e-santé. Mais il y a des questions de vocabulaire. Il faut être précis sur ce changement de paradigme. Alors l'usager, lui, son parcours de santé, il s'en fout. C'est sa vie, c'est son parcours de vie. La santé, c'est un aspect, rien de plus. Le professionnel de santé, c'est le parcours de santé proprement dit, mais c'est évidemment le sens large. Pour l'acteur sanitaire, nombreux nous sommes aujourd'hui ici, c'est quand même aussi un parcours de soins, et le parcours de soins fait déjà référence à des référentiels, à de la médecine basée sur l'épreuve. Mais pour le financeur, il utilise, et vous verrez ce qui est utilisé tant par les ARS que par la DGOS, que par l'HAS, parfois parcours de soins, parfois parcours de santé. Il y a un mélange et on n'est jamais sur la même signalétique. Et enfin, le décideur, il fait exactement la même chose. Donc on n'a peut-être pas tout à fait le même usage. Et en fait, si on regarde un petit peu, c'est les objectifs qui comptent. Pourquoi ? Ben, l'usager, ce qu'il veut, c'est le bien-être et sa qualité de vie. Et c'est lui qui définit ce que ça signifie. L'acteur ambulatoire, je dis bien ambulatoire, et là on est directement dans le médecin traitant, quand même, hein, la révolution de la médecine de premier recours, c'est au chapitre numéro 3 du projet de loi, et c'est dans la stratégie nationale de santé le deuxième point, la réponse aux besoins et aux souhaits en santé en proximité. Donc on est sur un aspect populationnel. On change, c'est plus le patient, c'est la personne en proximité. C'est ma population, celle que je couvre, et on parle de projet de vie. C'est intéressant, c'est une intégration. L'acteur hospitalier, il est soumis à des contraintes. Et là, on change complètement de dimension. Puisque lui, il doit assurer une qualité et une sécurité des soins, il a vraiment des obligations, et il a des référentiels, et on est dans la performance. Il peut évidemment penser projet de vie, mais ces contraintes-là sont des contraintes dirigistes. Je suis praticien hospitalier, ça a beaucoup changé par rapport à ma pratique libérale il y a 10 ans. Et enfin, le financeur, il pense à l'efficience. Il est encore dans un autre monde. C'est un monde économique. Et le décideur, qui est ou non financeur, on peut en voir quelques-uns, c'est bien l'efficience, mais c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est la gouvernance, le financement, le cadrage, la structuration, la modélisation et l'évaluation. Nous n'avons pas le même mot pour la même chose. parce que les objectifs sont différents. Et en fait, la définition du parcours de santé dépend de l'observateur, de celui qui en va en définir l'objectif. Donc là, déjà, il y a une discordance, il y a une distorsion. Alors, c'est la définition de l'ARS Rhône-Alpes que je vous mets ici. On ne va pas la lire en entier, mais vous voyez, parcours de santé, trajectoire, action coordonnée d'acteurs, facteurs déterminants de santé, avec hygiène, mode de vie, éducation, milieu professionnel, environnement. C'est un bon point, ça a changé. Bon professionnel, bonne structure, bon soin, bon moment, moindre coût. Mais qui dit que c'est le bon ? Et d'un seul coup, je me pose de sacrées questions. J'aimais cette définition et elle m'interpelle au plus haut point. Qui dit que c'est bon ? Qui va dire ça à un moment donné ? Et pour ce faire, il faut identifier l'endroit et la manière. C'est bien. Le coût et l'efficacité, c'est un régulateur, c'est un financeur. L'offre et l'organisation, c'est un structurant. Évidemment, les parcours ont cette dimension temporelle, organiser une prise en charge coordonnée tout au long d'une maladie, c'est le changement quand même de fond, c'est tout au long d'une maladie, et spatiale, et on l'organise cette fois dans un territoire à proximité du lieu de vie. Vous connaissez ça en psychiatrie, la médecine d'organes commence à peine à le découvrir. Donc, quelques problématiques quand même, celles qui sont dynamisantes, celles qui nous excitent un peu et nous poussent. C'est que les maladies chroniques ne font que grandir en termes d'incidence, donc il faut y aller quand même. Et la dépendance, également, est un sujet de premier ordre, avec le vieillissement de la population. Et on a cette évolution démographique. Donc ça, à la limite, ça nous pousse, mais ce qui nous freine en permanence, c'est ça. On nous parle de crise économique. Ben oui, budget contraint, 50 milliards, dont 10 milliards pour la santé. On va essayer de faire, mais j'en suis pas sûr. Les postures individuelles. Qui parmi nous ne sait pas qu'à un moment donné, nous allons privilégier notre posture individuelle sur la posture de groupe ? Parce que c'est humain et c'est un gros problème. Ensuite, c'est l'usage du progrès technique. Une technique nouvelle, ça coûte très cher. Le dernier médicament pour la prise en charge au long cours de la sclérose en plaques, c'est 20 000 euros par an et par individu. Comment fait-on ? Et comment éduque-t-on le patient ? Et comment apprend-on ces nouveaux traitements aux acteurs de l'ambulatoire ? C'est un autre aspect. Enfin, l'organisation du système de soins et de son financement. Nous sommes dans une organisation complexe, stratifiée, avec un vrai millefeuille. Donc il faut la modifier. Elle ne se fera pas, cette révolution-là, du jour au lendemain. Voilà les problématiques freinatrices que j'ai retrouvées dans les discussions avec beaucoup de personnes dans les ARS. Alors, essayons de trouver une porte de sortie. On va regarder ce qui a été modélisé au niveau des parcours. Et à partir de quelque chose, finalement, encore une fois, d'organe, c'est la maladie chronique. Et outre-Atlantique, outre-Manche, certains s'y sont penchés, mais vous voyez, ce sont des boîtes privées. Ce sont des boîtes qui avaient tout intérêt à ce que le patient, ou du moins la personne, coûte le moins, et soit, si possible, au mieux cadré dans un système anticipable, pardon, structuré, et dont le parcours est anticipable. Et donc, on a une segmentation. D'abord, une segmentation de la population par un niveau de risque, avec des définitions de stratégie, des prises en charge spécifiques avec des populations ciblées. On segmente les gens. On va prévoir des parcours spécifiques. On responsabilise le patient, grande nouveauté. On l'encourage à l'autogestion, on parle des aidants, on doit améliorer sa capacité à contrôler ses soins, comprendre son état, etc. Mais ça, c'est lorsque les gens ont un consentement éclairé, un comportement plus ou moins adapté et qu'ils ont conservé un minimum de moyens cognitifs, ce qui pose un problème, notamment en santé mentale. Et enfin, prise en charge dans la communauté. Grande révolution, non. Pourquoi ? Regardez comme c'est écrit. La prise en charge en veille et le maintien à domicile, parce que l'hôpital, ça coûte cher, sous-jacent, c'est ça, sont les piliers du modèle de gestion de la chronicité d'une pathologie. On va voir que la chronicité d'une pathologie n'est pas vraiment le problème. Donc c'est une bonne modélisation avec un caractère d'efficience essentiellement économique, structurante, dans un projet anticipable par spécificité. Mais elle ne s'applique pas au parcours de santé quel qu'il soit. Donc ça veut dire que la définition dépend encore une fois de qui s'y met. Alors, si on essaie de regarder comment on peut élaborer des nouveaux modes de coopération pour aller au-delà de ce modèle simple, économique, transdisciplinarité, prise de décision partagée, nouveau périmètre de compétences avec une redéfinition des missions, et là on trouve, aujourd'hui, on ne peut pas y déroger la place centrale du médecin traitant. Et ça c'est un gros questionnement pour la psychiatrie. La place centrale du médecin traitant. C'est la première fois qu'on entend parler de ça, vraiment. Ce n'est pas le médecin référent de la Sécu. Pardon, de Van Rekkegem. Donc le recours hospitalier, quand ? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Le recours hospitalier n'est pas encore défini. C'est-à-dire, en gros, maintenant, c'est quand l'acteur ambulatoire ne peut plus faire avec le domicile. J'ai bien dit avec le domicile. Les aidants, l'environnement, mais également ses propres moyens à lui, notamment dans son cabinet. Enfin, avec la participation d'acteurs médico-sociaux, par exemple les conseils généraux ou les CCAS. Et enfin, avec la définition d'un plan de parcours et d'un pilote. Et le problème, c'est le pilote. Puisque maintenant, quand on parle de parcours de santé, en tout cas à la DGOS, dans les ARS, partout, on parle de pilote du parcours. Le problème, c'est qui va définir, qui va désigner le pilote, et surtout, à quel titre et avec quelles compétences. Donc, il y a un autre problème, c'est le financement, puisqu'on fait coopérer des acteurs qui n'étaient pas du tout en coopération entre eux, en particulier la médecine ambulatoire et la médecine hospitalière. Comment on va financer des ressources pour des parcours sur un territoire donné? Quel impact en termes d'évolution d'activité pour l'ensemble du territoire? Mais c'est important, par acteur, par structure, quand vous coopérez, vous perdez une partie de votre temps pour un objectif certes commun, mais vous mettez une partie de vous au pot commun. Et ça a un coût, il va falloir en faire quelque chose. Comment on finance ça? Et vous savez que c'est un gros problème aujourd'hui, c'est la faillite de l'accord assis entre la médecine de soins primaires et la Caisse nationale d'assurance maladie il y a 15 jours. Et enfin, quel impact économique pour chaque acteur d'une modification d'utilisation et de gestion de ses ressources et des ressources des autres? C'est-à-dire, on n'appuie pas sur le bouton hôpital quand on est vendredi soir, 16h, avec une problématique compliquée. C'est une nouvelle redéfinition, mais pas qu'économique, c'est également dans une posture. Alors, je vais simplement vous proposer, pour finir, de revoir ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand l'usager, la personne, ne veut pas ce qu'on lui propose? On a tout organisé, on a fait de la concertation, il n'en veut pas. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la question, c'est est-ce qu'elle a un choix, un consentement éclairé, en gros, qui va choisir à sa place? Ça, nous, dans la médecine d'organes, pas en psychiatrie, dans la médecine d'organes, et même en gériatrie, on a énormément de difficultés à le contourner, ce problème-là. Y a-t-il une distorsion perceptive sur l'enjeu entre les deux entités? Il est évident que nous pensons quelque chose de bien pour un patient qui peut absolument n'avoir aucun moyen de se représenter ce qui est bien pour lui. Pas sur le plan du choix éclairé, tout simplement sur le plan de sa représentation par ses capacités cognitives. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliquer des parcours compliqués à des gens qui n'ont pas forcément les moyens socioculturels. Point final. C'est une réalité. Quelle est l'influence de la famille dans cette opposition? Je peux vous dire que sur des parcours complexes, notamment sur plus de 280 cas, dans 50% des cas, la famille est le problème. Et ce n'est pas le patient. Et pourtant, c'est elle qui a impacté sur le choix du patient. Quelle est la part liée à la situation sociale dans cette opposition? On ne reviendra pas sur la précarité. Et quel est le choix de vie de la personne qui conditionne son refus? Si je veux vivre dans la merde, entre guillemets, sans eau et sans électricité, c'est mon problème. La dernière fois que ça nous est arrivé, on a eu d'ailleurs un patient qui a terminé au centre hospitalier Alpizère, parce que tout simplement, depuis un mois qu'il voulait rentrer chez lui sans eau, alors qu'il avait besoin de rentrer chez lui pour revoir son chien, eh ben, au bout d'un mois à l'hôpital, on ne voulait pas le sortir pour des raisons éthiques, il s'est pendu avec sa sonde à pipi. Donc c'est un petit peu dommage d'arriver à ces limites-là. Alors les moyens de répondre aux problèmes ne sont pas disponibles. C'est un autre vrai élément de problématique. Soit parce que la temporalité est inadéquate, on n'a pas le temps de les mettre en œuvre. Soit parce que la technique est absente, il y a des territoires où il n'y a pas d'offre technique, ou très peu. Soit parce qu'on a un règlement qui nous bloque. Quand il y a un patient qui, d'un seul coup, était valide, a eu un AVC et qui doit ressortir avec un niveau de GIR égal à 3, on a 60 jours pour avoir une APA, c'est-à-dire avoir le droit à financer les aides. Alors, on peut contourner ça, mais ça pose quand même un problème, il faut que ça change. Et enfin, on manque d'acteurs. Il y a des infirmières qui n'existent pas dans certains domaines où il y a beaucoup de patients âgés, notamment en zone rurale. Et enfin, ça, c'est un point, la posture d'un acteur reste individualiste. Si ça se passe, et notamment ce sont les spécialistes libéraux, en particulier les spécialistes d'organes qui se comportent comme ça, comment on va le contraindre? Excusez-moi pour le noir, c'est un changement de format entre le Mac et le PC. Donc, l'une des questions, c'est est-ce qu'on peut éventuellement trouver aussi, en fonction de la place de l'acteur, eh ben, la meilleure solution pour le parcours du patient versus mon problème à moi. Et mon problème à moi, notamment dans la médecine rapide, en centre hospitalier, c'est de faire sortir le patient pour ma DMS. Alors, je ne reviens pas sur le sens de ça, même si je sais que Mario fait... Voilà. Alors, juste ça, c'est ce que voulait la... C'est en gros, vous êtes fatigué, vous êtes enrhumé, il faut aller au chaud. Et la personne veut ça. Et on a eu exactement ça, en gros, au moins sur les 30 derniers cas, prise en charge complexe dans notre réseau plateforme de santé, qui est un maintien à domicile, un retour à domicile à partir de l'hôpital, où le patient avait une opposition complète à un projet qui était un projet médicalement argumenté. Pourquoi? Parce que ses habitudes pour lui, eh ben c'était tout simplement de revenir sur le froid, même s'il fallait du chaud. Alors, je voudrais finir avec cette diapo-là. Ça, c'est la gestion, l'idée que l'usager se fait de la gestion, de la coordination d'un parcours. Et la question posée, c'est qui serait et que ferait une personne dont la mission est d'organiser une prise en charge sur le long terme? La réponse de certains, c'est quelqu'un en lequel on a confiance et qu'on peut appeler quand ça ne va pas pour n'importe quoi. Ça, ce sont des verbatims de patients. Hein. Voilà, avec consentement éclairé, je le précise. Typiquement, la posture d'un référent de parcours de santé de l'AFM Téléthon. C'est exactement comme ça que certains se positionnent, en gros. Ensuite, un autre exemple, c'est celui qui comprend autant les papiers que les ordonnances et qui sait ce qu'il faut faire au bon moment. On retrouve un petit peu le bon moment, les bonnes choses. Ça, la plupart du temps, c'est en général le médecin traitant ou l'aidant principal. Mais ce n'est pas sûr, parce que certains patients n'ont pas de médecin traitant ou certains ne comptent pas sur le médecin traitant. C'est celui qui m'écoute, prend le temps, à qui je fais confiance et qui respecte mes choix, même si ce n'est pas les siens. Et ça, normalement, c'est la posture de tous les professionnels de santé, mais certainement pas la réalité. Et enfin, s'il pouvait s'occuper à la fois des soins, des aides et trouver les sous pour le faire, il devrait être ministre de la Santé. Ça, c'est une mamie de 86 ans. Et en fait, on lui a demandé, est-ce que vous y croyez vraiment? Elle fait, au moins, je crois en Dieu. Donc, c'est intéressant parce que on retrouve toujours la même chose. Tout faire, me faire comprendre, m'accompagner, me respecter, c'est-à-dire m'écouter, me respecter, et surtout, aboutir à quelque chose qui est global pour moi. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on a pris les choses en main, et ce n'est peut-être pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai encore d'autres diapositives, mais je pense qu'il faut s'arrêter là. Donc, c'est pour définir, en fait, une question qui, aujourd'hui, n'a pas de solution, puisque nous sommes dans la confrontation et la compétition des dispositifs. Qui va piloter? Qui va coordonner un parcours? Est-ce que c'est le médecin traitant et avec quels moyens? Est-ce qu'on doit l'appuyer, par exemple, avec des réseaux de santé, des dispositifs Maya, des HAD, des clics, etc.? Ou est-ce qu'on implique tout le monde selon la mesure qu'il est capable de donner, et c'est ça qui m'intéresse, dans un parcours qui est concerté avec le patient? Pour l'instant, y compris dans la modélisation des parcours par RPA, on n'a pas cette dernière solution. Donc voilà, c'était des questions un petit peu tirées du terrain et tirées également de quelques institutions honorables comme la NAP ou certaines ARS ou encore la HAS. Merci.
Merci. Merci à vous. Bon, juste une ou deux commentaires avant de passer la parole à Mario de Poisson. Disons, la vraie chose, ça m'a rappelé, moi j'ai créé une consultation de douleurs chroniques au CHU de Nantes, donc en pluriprofessionnel, donc vous l'avez évoqué par rapport à la consultation de la douleur chronique, effectivement, on se gardait bien de mettre un diagnostic, puisque la question du patient qui arrive en ayant une douleur qui dure, c'est justement l'articulation du... Ce qui est le plus important, c'est la pluridisciplinarité, le pluriprofessionnalisme. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le temps, première chose... On avait mis le médecin traitant, on avait mouillé le médecin traitant, autrement le risque, c'est que tous les patients difficiles sont envoyés à la consultation ou à l'unité de traitement de douleur chronique. Donc le médecin traitant devait être dedans. Et deuxième chose, c'est qu'on a mis un temps fou, on a mis plusieurs mois à travailler ensemble. C'est-à-dire ce que vous disiez, c'était la question aussi de la formation. Tout à l'heure, bon, vous avez dit trop c'est trop, c'est vrai qu'on a énormément de choses, mais je veux dire, ne nous plaignons pas. C'est-à-dire c'est à nous de savoir serrer, mais je crois qu'il faut aussi aller du côté alors, bon, de la formation du DPC ou peut-être l'HAS peut nous donner certaines réponses pour savoir aussi comment travailler ensemble sur des objectifs. Et peut-être qu'on attend, alors je ne sais pas si c'est une loi, mais en tout cas c'est un idéal. C'est un idéal qui nous permet aussi de retrouver des bonnes pratiques dans lesquelles aussi bien les patients se sentent au clair, parce que je ne vois pas comment on peut faire sans... La vie des patients, alors c'est vrai qu'en psychiatrie, c'est simple, on les met en SDT ou en SDRE s'ils ne veulent pas, de toute façon, comme ça. Bon. Mais je veux dire qu'on sait bien que ce n'est pas comme ça. Si on les met en SDT ou en SDRE, c'est pour avoir absolument l'alliance et le consentement. Sinon, on n'arrivera à rien. Donc, je crois que le but, c'est d'arriver à avoir non seulement le consentement des patients, et d'avoir aussi le consentement des professionnels. Parce que si les professionnels ne sont pas tout à fait partie prenante d'un parcours de soins, alors effectivement, ce qui nous manque, c'est les outils. C'est-à-dire au niveau aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des dispositifs très différents, des financements qui sont très différents, des places qui sont différentes. Quels sont les outils qui peuvent aussi faire qu'un parcours de soins fonctionne? Ça, aujourd'hui, dans la loi de santé, il n'y a rien qui est indiqué. Au niveau des professionnels, je dirais qu'on fait du bricolage. Alors même si en psychiatrie, on a l'habitude, on fait ça, c'est comme ça qu'on a créé le secteur. Mais je crois qu'on aurait besoin un peu plus d'outils que de bricolage qui nous permettraient d'éviter de se confronter à des difficultés récurrentes dans l'organisation de ces parcours de soins. Alors, Mario de Poisson, vous répondez quoi aux questions qu'a lancées Gérard Mick ?
Je ne sais pas si je vais répondre à toutes ces questions parce qu'elles sont très diverses, très profondes et très complexes. Non, je voulais simplement moi, vous apporter aujourd'hui un petit retour d'expérience que nous avons sur une démarche que nous sommes en train de conduire à la NAP et qui porte sur les parcours en psychiatrie santé mentale. Alors, comment ça marche, ce bidule ? Je ne saurais pas vous dire.
Non. On va vous mettre. Mais peut-être
bon, c'est celui-là ?
Non, attendez, on va déjà vous le régler. Attendez,
ah, d'accord. Faut pointer là-bas. C'est quoi ça ? Bon. À l'air de sécurité, ça va exploser. Voilà, ça y est. Voilà. Bon. Alors, celle du haut, du coup ? Celle du bas, pardon.
C'est l'autre qui recule, non ?
Non. Excusez-moi, mais alors j'aurais besoin d'un stage de formation.
Non, ça marchait, là.
Aïe.
Quand tu regardes bien la dame.
Mais c'est ce que je regarde la dame.
Comme ça.
C'est celui du milieu. Comme ça.
Voilà.
Waouh. Bon. Alors, la NAP aborde la question des parcours à travers sa vocation à elle, hein, et qui s'exprime notamment, qui est exprimée à travers une convention d'objectifs entre l'État et la NAP. Et dans ces objectifs, il y a entre autres accompagner les établissements de santé et médico-sociaux dans leur ouverture sur les territoires. Alors j'ai voulu mettre cette phrase-là en exergue parce que ça a l'air de rien, mais c'est important de savoir d'où on parle. Hein. Donc on parle à partir des établissements sanitaires et médico-sociaux. On ne parle pas du système de santé en général, de l'ambulatoire. Non, notre mission, c'est d'accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc là, il y a une dimension qui est indiquée d'une façon très claire, qui est le parcours des personnes. Et vous savez qu'on a commencé à travailler sur les sujets personnes âgées et que ça a donné lieu finalement au dispositif un peu plus connu sous le nom aujourd'hui de PAERPA. Voilà, donc ça vient de là. Ah, à nouveau. Quand je fais beaucoup de mal. Voilà. Alors, l'objectif de la démarche. Alors, à l'époque, quand on a commencé, on était encore dans la stratégie nationale de santé. Ça a changé, mais ça ne fait rien. Donc, on était sur cette. Notre démarche s'inclut là-dedans. Le programme de travail est validé par un conseil d'administration dans lequel on a, bien sûr, les ministères, la caisse, la CNSA, la Caisse nationale d'assurance maladie. Hein. Donc, notre intervention se situe dans le cadre des politiques publiques. L'objectif, c'est d'améliorer les parcours des patients en psychiatrie et santé mentale. Pourquoi avons-nous mis cette terminologie un peu floue ? Parce qu'on voyait bien que si on parlait des parcours, il y avait des parcours en dehors des établissements, forcément, de la psychiatrie proprement dite, et qu'on entrait dans cette zone un peu mal définie de la santé mentale. Donc on s'est dit, on ne va pas dire psychiatrie, on ne va pas dire santé mentale, on tient les soins et le reste, donc on va dire psychiatrie et santé mentale. Bon, c'est une façon commode, je l'avoue, pas très précise non plus, mais qui permet d'éviter de s'enfermer dans des catégories a priori. Donc l'objectif, ça c'était le métier de la NAP, c'est de mettre au point des méthodes. On est né pour ça, donc on essaye de mettre au point des méthodes et des outils opérationnels, là, appliqués au diagnostic territorial à destination des acteurs de terrain. On est là pour soutenir, hein, avec un objectif de capitalisation pour une diffusion plus large. Donc c'est un aspect organisationnel et qui se fait, on va le voir, à partir des professionnels eux-mêmes, et pas seulement. Alors, j'en ai loupé une. Non.
Trop facile.
Oh, ouh là 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 là, là 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 là.
C'est un parcours chaotique.
Oui, c'est un parcours chaotique, je suis désolée, voilà. Donc, comment on a procédé ? On est parti avec trois ARS volontaires, qui sont l'ARS Bretagne, l'ARS Nord-Pas-de-Calais et l'ARS Auvergne, en disant, on ne va pas traiter tous les problèmes de psychiatrie parce que c'est beaucoup trop important, on va prendre une population un peu mieux circonscrite. Donc on a choisi de s'occuper des patients adultes atteints de maladies psychiatriques chroniques, donc au long cours, pour avoir cette notion de parcours, et en situation de handicap reconnu ou pas. Ça, peu importe. le principal, c'est les personnes adultes atteintes de troubles psychiques chroniques. Donc l'idée, ce n'est pas de venir en disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». On en sait moins que les acteurs de terrain. Donc on vient à l'appui des acteurs de terrain qui ont engagé la plupart du temps des démarches. C'était le cas des trois ARS en question. En Nord-Pas-de-Calais, ils avaient travaillé avec le Conseil général, en Bretagne aussi, en Auvergne également. Et l'objectif, c'est d'impliquer tout le monde. D'impliquer tout le monde. Alors, on pense bien sûr aux acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, institutionnels, mais aussi les usagers et les aidants. Donc ça, c'était un parti que l'on a pris dès le départ, qu'on a vraiment voulu inscrire. On n'y est pas forcément arrivé dans la complétude souhaitée, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a démarré le projet. Donc l'idée, c'est de parvenir ensemble à construire un diagnostic territorial pour, du coup, essayer de répondre aux problèmes identifiés à travers une feuille de route que l'on accompagne aussi pendant quelques temps. Donc l'idée à la suite de ça, c'est de modéliser certaines réponses, si on peut y arriver, et de les mettre à disposition du plus grand nombre. Alors le parcours, on ne sait pas ce que c'est, même si... oui, pas possible. Voilà. Bon, alors, je vais m'attarder un petit peu sur cette diapo-là. C'est comment on a abordé la question du parcours en psychiatrie santé mentale. Je vous dis le parcours en psychiatrie santé mentale. Le parcours, déjà, on ne sait pas bien ce que c'est. En psychiatrie santé mentale, encore moins. Donc, on a écouté, interviewé plein de monde, tout ce qui compte de fédérations, l'ADES, entre autres, hein, pour essayer de voir où étaient, selon les personnes interviewées, les difficultés rencontrées par les personnes dans leur parcours. Et on a identifié cinq risques un peu forts. Vous allez me dire, le premier, ça commence bien. Ça commence déjà par l'accès au diagnostic et aux soins. Bon, qui ne va pas de soi. Le deuxième, c'est les hospitalisations inadéquates dont on a beaucoup parlé à la suite d'un rapport qui a été produit par l'AMNASM sur les hospitalisations de longue durée. Hein. Et c'est un thème qui a été repris dans la quasi-totalité des ARS de France et de Navarre. La question de l'accès aux accompagnements sociaux et médico-sociaux, une fois qu'on sort de l'hôpital, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment les relais sont-ils pris? Une question qui n'avait pas été vue tellement au départ, mais qui est la question de l'accès aux soins somatiques, qui est un problème assez conséquent. Il y a une mortalité très forte de la part des personnes atteintes de troubles psychiques chroniques, très supérieure à au reste de la population. Et puis, bien sûr, ce qui paraît le plus évident, mais qui n'est qu'un des éléments parmi d'autres, la prévention et la gestion des situations de crise. Donc là, ça a été un peu les cinq situations difficiles et qui peuvent entraîner des ruptures dans les parcours. Donc on s'est dit, si on travaille sur ces sujets-là ensemble et qu'on cherche à améliorer les réponses sur ces sujets-là ensemble, on a des chances d'améliorer les parcours. Voilà un peu l'hypothèse qui a présidé à notre démarche. Bon. Alors, les phases, lancement, diagnostic, feuille de route. On en est aujourd'hui dans la mise en œuvre de la feuille de route. Alors, au niveau du diagnostic, il y a eu le choix du territoire d'action. Le territoire pour l'Auvergne, ça a été le bassin de santé intermédiaire de Montluçon, entre les territoires de santé, le département et le secteur. Donc, c'était le BSI de Montluçon. En Nord-Pas-de-Calais, ça a été la zone de proximité de l'Ancenin. Il y a encore deux autres noms, mais je les confonds toujours, donc c'est tout. Et en Bretagne, comme il n'y avait pas de zone intermédiaire, on a créé un territoire ad hoc pour l'étude. Alors, je passe là-dessus et je vais peut-être directement aux enseignements sur la méthode. Alors, comme je vous le disais, on a réuni tout le monde. Et pendant cette phase diagnostique, on a fait donc travailler toutes les personnes repérées sur le territoire et dont c'est l'ARS qui en avait la responsabilité, donc usagers, patients, aidants, les établissements sanitaires et médico-sociaux, les médecins libéraux également, les travailleurs sociaux, des représentants de la société civile. Donc dans des proportions, on le verra, qui ont été diverses, mais on a réuni tout ce monde-là. Et en juin, on a fait un point d'étape sur le diagnostic et on a vu en tout cas que cette méthode avait permis effectivement aux gens de travailler ensemble, de croiser les points de vue et d'échanger de manière efficace. Donc ça, c'est cette façon de réunir les gens et de les faire s'interroger ensemble sur leurs difficultés, ça fonctionne, ça a permis en tout cas d'arriver à un diagnostic et ça a permis d'établir une feuille de route. Donc ça, c'est déjà un premier constat. Ce qu'on a vu aussi, la participation des usagers et des aidants, ça a été quelque chose de très positif. On n'a pas réussi à l'organiser pleinement sur les trois territoires, mais ce qu'on peut dire, c'est que là où on a pu le faire, ça a donné une profondeur au diagnostic très supérieure aux autres, à d'autres. Hein. Et ça a aussi surtout eu pour effet d'éviter que les professionnels ne s'enferment dans des postures réciproques, de défense, de protection, etc. Bon, c'est des jeux un peu convenus. Mais du moment qu'il y avait les usagers et les aidants qui étaient là, ben, ça apportait une sorte de tiers et qui faisait que, finalement, les discussions se faisaient d'une façon tout à fait constructive et ouverte. Autre chose qui a été très appréciée, c'est le copilotage ARS Conseil Généraux. Collectivité locale, c'est sûr que si on n'a pas ces deux conditions, cette condition-là qui est réunie, on ne peut pas avancer, c'est certain. Donc là, on a vu la plus-value de cette coopération. Alors, les limites, parce qu'il y en a, c'est les analyses quantitatives qui ont été difficiles à réaliser. La mesure n'est pas dans la culture du monde psychiatrique. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais quand on veut étayer un diagnostic et démontrer ce qu'on dit, ça ne peut pas nuire, quelquefois, d'avoir quelques aspects de mesures qui permettent au moins de prendre conscience des choses. Donc, la plupart du temps, finalement, les diagnostics, mais c'est pas mal non plus, mais je pense malgré tout que ce n'est pas suffisant, ont été obtenus par consensus. C'est-à-dire que tout ce qui a été acté dans les diagnostics des trois territoires l'a été par consensus de l'ensemble. Donc, c'est pas mal. Bon. Mais tout de même, avec je dis ce bémol qu'on ne peut pas étayer véritablement ce qui est dit et comment mesurer ensuite des évolutions si on n'a pas de point de départ. Une des difficultés qu'on a eues aussi, c'est la mobilisation des acteurs de premier recours et notamment des médecins libéraux. Donc la méthode était un peu responsable puisqu'on travaillait en journée et qu'évidemment les cabinets fonctionnent en journée, ce n'était pas forcément très très facile. Mais c'est donc on y est arrivé quand même en rusant par des réunions le soir ou par des réunions ad hoc à côté. Bon, mais enfin c'est pas forcément simple. Et ça, en tout cas, ça met bien en évidence une certaine césure entre la médecine libérale et la psychiatrie institutionnelle. La troisième limite, c'est une ouverture complexe vers le social. Je dirais social sociétal. C'est qu'on reste quand même un petit peu dans l'entre-soi sanitaire médico-social et qu'arriver vraiment à irriguer dans la vraie vie, l'environnement des personnes, avec les professionnels qui s'intéressent à l'environnement direct des personnes au quotidien, c'est difficile. Comme je vous le disais, les conseils généraux se sont impliqués, mais ils sont impliqués surtout sous l'angle des personnes handicapées, de leurs responsabilités dans ce domaine-là, et pas tellement dans leur domaine de l'action sociale. Donc ça a été plus difficile. Bon, on avance en faisant aussi. On fera mieux la prochaine fois. À approfondir, c'est le territoire d'intervention, ça c'est une question ouverte. Là, on a eu la chance d'avoir des territoires où on avait une superposition de limites à la fois territoire de santé, comme je vous le disais tout à l'heure, des limites de secteur psychiatrique et des limites institutionnelles, communauté de communes ou canton ou arrondissement. Donc, il y avait là une superposition qui permettait finalement aux gens de se repérer. D'ailleurs, ils se connaissaient souvent de nom, sans savoir vraiment qui ils étaient, mais ils se repéraient sur ces territoires. Ça avait un sens pour eux de travailler ensemble. Et il y avait cette superposition à beaucoup faciliter le dialogue. Alors, qui reste à approfondir à ce stade-là de la démarche, ce sera les conditions de déploiement, puisque là, on est parti avec des moyens du bord, avec des référents ARS dédiés à la psychiatrie, qui ont beaucoup investi dans ce domaine-là. Mais faire ça 10 fois, 12 fois sur l'ensemble des territoires de l'ARS, c'est peut-être pas très évident. Donc, la question, pour l'instant, est ouverte. Alors, sur le fond, ça y est, ça recommence. J'aurais été jusqu'au bout.
Il vous reste combien de
dialogues ? Nul.
Ah ben, c'est parfait.
Nul. Bon. Non, c'est pas ça.
Non,
celle d'avant. Ouais. Celle d'avant.
Mais c'est parce que des fois c'est trop, il ne faut pas faire plus trop.
Voilà. Donc ça, c'est en référence aux 5 portes d'entrée que vous avez vues dans la rosace. Hein. Un des paradoxes qu'on rencontre dans la psychiatrie, sur les parcours en psychiatrie santé mentale, c'est qu'il y a la non-demande. Ben, ça fait partie du parcours, quelque part. Alors c'est un peu compliqué. Comment on fait pour organiser un parcours à partir de quelque chose qui n'est pas nécessairement exprimé, hein. Donc ça veut dire simplement qu'il faut l'avoir présent à l'esprit. Déjà, c'est déjà quelque chose, mais ça, c'est quand même un des grands paradoxes du parcours en psychiatrie santé mentale. Le deuxième, c'est sur l'inadéquation qui avait été fléchée sur les hospitalisations, comme vous avez vu tout à l'heure, et on s'est rendu compte que les inadéquations, il n'y avait pas que les hospitalisations. Hein. Qu'il n'y avait pas en hospitalisation inadéquate que des hospitalisations de longue durée, qu'il pouvait y avoir des hospitalisations courtes inadéquates, qu'il pouvait y avoir des réhospitalisations inadéquates, qu'il pouvait y avoir d'autres choses, mais surtout, qu'il pouvait y avoir des placements inadéquats, des gens qui sont dans leur famille de manière inadéquate aussi. Donc, de toute façon, l'inadéquation, il y en a partout. Et que la façon de poser la question des hospitalisations inadéquates, elle n'est pas juste parce qu'elle elle obère le fait que, en fait, on dit il y a trop de gens dans les lits, faut vider les lits pour en mettre plus de monde. Mais donc, on est toujours dans une logique de comment je gère mes stocks. Donc, en fait, il faudrait gérer des flux. Et ça, tant qu'on ne pensera pas à flux, on aura toujours des hospitalisations inadéquates, c'est certain. Donc ça, c'est un des grands enseignements qu'on a eus en discutant avec les acteurs de terrain. Ensuite, l'évaluation des besoins et l'orientation des personnes pour l'accès aux structures médico-sociales, c'est un parcours, c'est quelque chose de très complexe. En principe, depuis 2005, c'est la MDPH qui a la main sur l'orientation. Donc on s'aperçoit que tout le monde oriente, ou tout le monde évalue, mais à sa manière, et jamais de manière véritablement pluriprofessionnelle. Donc ça, c'est un vrai sujet. Tout le monde, là, c'est un petit peu raté la tête en se disant ben, faut qu'on revoie la façon de travailler, qu'on travaille avec la MDPH, quand on travaille avec le médico-social, dans l'établissement, comment est-ce que j'évalue la situation? Est-ce que j'en reste simplement à la question de la psychiatrie au sens strict du terme? Comment je mesure les possibilités d'évoluer de la personne? Grosse question. Quatrième question, alors l'accès aux soins somatiques. Là, on doit dire qu'on a eu beaucoup de mal à traiter le sujet pour la raison que je vous expliquais, la difficulté d'avoir accès aux médecins libéraux, mais en même temps, on s'est rendu compte que là, il y avait un vrai problème de césure. Alors là, je dirais que ça dépasse largement les seules compétences de la NAP. Hein. Il y a certainement un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps à d'autres niveaux, mais ça s'est vraiment confirmé à travers le diagnostic. Et je le disais tout à l'heure, la difficulté à obtenir les éléments chiffrés qui est quand même un peu pénalisante dans la manière d'établir quand même les diagnostics. Et je termine sur les enseignements pour l'organisation des parcours. Je dirais à propos même de l'organisation des parcours, c'est un bien grand mot, dire organiser les parcours. Là, je voudrais simplement vous relever quelques points sensibles, pas pour être négatif systématiquement, hein. Non, c'est pour donner plutôt une ligne d'horizon. De collective, et ce sont des choses qui ont été tout à fait bien vécues par les professionnels de terrain avec lesquels on a travaillé. D'abord, le fort besoin d'interconnaissance et d'acculturation réciproque. Ça s'est terriblement confirmé, alors partout. Ce que je vous dis là, c'est commun aux trois territoires très différents, dans des azimuts très différents et des caractéristiques très différentes. La même chose partout. La deuxième, c'est la prise en compte du handicap psychique est encore peu intégrée dans les pratiques des établissements. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, il y en a bien sûr qui le font. Hein. Je parle d'une façon plus générale, plus globale, en termes d'organisation générale. Je vous le dis tout de suite, parce qu'après je vais l'oublier, ce serait dommage. Ce qu'on a vu, effectivement, en travaillant avec tous ces professionnels, c'est l'incroyable créativité, investissement, inventivité qu'il peut y avoir à tous les niveaux, tous les jours. C'est incroyable. Mais nous, on a fait ci, on a fait ça. Il y a une capacité d'innovation qui est formidable, mais qui n'est pas stabilisée, qui dépend des personnes. Et vraiment, la question qu'on voit à travers ça, c'est comment on peut arriver à tirer parti de ce qui est fait, à le modéliser et à en faire quelque chose qui soit diffusable et stable, surtout. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce que je dis là, c'est pas pour faire dire ça va pas, c'est noir, etc. Pas du tout. Il y a plein de choses qui sont faites, mais qui sont trop, trop précaires dans leur portage, dans leur vécu, et qui font que, finalement, quelqu'un part à la retraite ou part, et ça s'arrête. Et ça, c'est dramatique. Alors, troisième point, la lisibilité des dispositifs d'accueil. Ça, il y a un gros sujet là-dessus, vis-à-vis des professionnels de premier cours, notamment, et du public. Comment ça fonctionne? On dit le secteur, mais c'est quoi le CMP? C'est quoi les heures, machin, qui, que, quoi, quand? L'urgence. Alors, si on est dans l'urgence, alors là, c'est la bouteille à l'encre. Ce qu'on a vu aussi, c'est la logique de placement qui prévaut encore largement sur la notion d'accompagnement. On n'est pas encore dans une idée qu'on accompagne des personnes. On a quelqu'un là en responsabilité, en soins, il faut lui trouver une place. C'est quand même encore quelque chose qui est très prégnant dans la manière d'aborder les problèmes. Et on le voit, ce que c'est qu'un SAMSA, ce que c'est qu'un SAVS, ce n'est pas encore quelque chose de très fluide et de très connu partout, en tout cas. Le cinquième point, alors là, qui nous a sauté à la figure, c'est le rôle des aidants. Le rôle des aidants qui est très, très sous-estimé, sous deux aspects. L'aspect ressources, ce sont des gens qui ont un savoir profane très important, et on l'a vu dans les groupes de travail. Ils ont été force de proposition dans ces groupes d'une façon tout à fait forte. Hein. Et aussi en termes de besoins d'accompagnement. Ils en ont aussi besoin, eux, d'accompagnement. Et en sixième point, et ça c'est un petit peu en synthèse, c'est que nos parcours de soins, ils sont encore un peu inscrits dans les parcours de vie. Voilà.
Merci. Juste avant de faire le lien, je vais être assez désagréable dans la mesure où je vais être obligée de rappeler à chacun que le temps nous est contraint et donc d'essayer au maximum de respecter les 10 à 15 minutes, sachant que ça va être plutôt 12 là, pour les prochains. Alors peut-être juste pour faire le lien avec les défis du parcours de soins au quotidien. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut peut-être sortir de cette dichotomie, pour ne pas dire de schizophrénie, psychiatrie et santé mentale. La psychiatrie, ce n'est pas la santé mentale, et la santé mentale, ce n'est pas que la psychiatrie. Et si on sort aussi de la logique d'organes et de cette dichotomie, on pourra enfin aborder la logique de parcours et de parcours de santé. Et dans cette logique de parcours de santé, il y a des enjeux. Il y a des enjeux de santé publique, on l'a vu, notamment les soins somatiques, la durée de vie qui est moindre chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques, et puis sortir aussi d'un parcours de santé qui soit chaotique, sur lequel il y a des obstacles, et sur lequel aussi ce parcours pèse beaucoup pour les personnes les plus vulnérables, que cette vulnérabilité soit liée à l'âge, au handicap, ou là, ici, à la maladie mentale. Alors, comment faire pour que ce parcours de santé, parce que quand je dis parcours de santé, il intègre le parcours de soins, le parcours de vie. Comment faire pour relever cela au quotidien? Alors, à la fois avec les organisations dont on dispose, et peut-être là, avant, un clin d'œil vis-à-vis de l'ANAP, où nous aurions besoin, effectivement, de cette expertise et de cet accompagnement sur, au-delà, et c'est très bien ce qui a été conduit, c'est qu'est-ce qui peut, maintenant, qu'est-ce qui peut être consolidé, parce qu'il y a des choses qui existent et qui fonctionnent bien, on va le voir, mais au-delà de ça, c'est comment on peut décrire et accompagner les professionnels à pouvoir consolider ça et à garantir ce parcours. Docteur, je vous laisse la parole pour la suite.
Bonjour à tous. Déjà, donc, je voudrais remercier les organisateurs, donc l'ADESM, pour cette invitation, et notamment donc M. Mariotti, directeur de notre établissement. J'ai pas beaucoup de temps, donc 12 minutes, j'avais prévu 45, donc je présente. Déjà, il faut quand même que je me présente, parce que pour permettre de mesurer un peu aussi mes propos. Ça, c'est le micro qui fait un peu. Donc, je suis jeune comme président de la CME. Je suis un jeune président de la CME. J'ai été nommé en mois de février 2014, donc ça fait 10 mois. Je suis italien, ça vous avez pu le comprendre dans mon accent. Bon, ça a été dit quand même, ils vous ont gâché la surprise. Ça fait 4 ans que je suis en France. J'étais déjà psychiatre en Italie. J'ai été psychiatre dans un département de santé mentale, comme on les appelle en Italie, donc psychiatrie communautaire. J'étais dans un.
Hein? À Trieste?
Non, j'étais à côté des Turans, mais dans un département qui était très, très branché. Pour vous dire, ils étaient tellement sortis de l'hôpital qu'il n'y avait même pas un service de psychiatrie entre hospitaliers. Donc, quand on avait besoin de lits, il fallait demander aux autres hôpitaux. Donc, vraiment psychiatrie communautaire. Et j'ai aussi un passé très modeste, mais universitaire, et un passion pour la recherche. Alors, il faut que je récupère le. Ah oui. Donc, là, ce que je vais essayer de faire en 3 minutes, c'est la présentation donc, d'un modèle. Hein. Donc, nous sommes dans la modélisation, essayer la modélisation de l'organisation de l'offre de soins extra-hospitalière, donc encore avant la modélisation du parcours de soins, mais dans notre esprit, c'était préalable. Donc, je vais quand même, je pense qu'il faut... Non, c'est en bas. C'est en bas, je crois. Oui, c'est juste, il faut juste pousser très fort. Donc, c'est un travail que nous avons commencé le mois de mars et qui, il faut le dire, M. Maretti, ça faisait au moins 3 ans qu'il demandait à la communauté médicale du centre hospitalier Albizère de se positionner vis-à-vis de l'offre des soins que nous avions un peu dans l'esprit, que nous souhaitons mettre en place pour l'intra-hospitalière et pour l'extra-hospitalier. Donc là, je vais vous présenter l'extra-hospitalier. Je vais d'abord vous présenter les raisons de ce changement. Donc, comme ça a été déjà dit, donc c'est bon, on pensait en réel changement, pas juste ajouter des choses, pas juste améliorer, comme on disait, mais vraiment changer. Mais pourquoi changer? Donc, quelle est la raison? Donc, en contexte de crise, on va essayer de pas aller un peu vite parce que ce sont des choses qui quand même ont été reprises aussi ce matin. La crise financière, donc bon, en Italie, ça est venu beaucoup avant la France et c'est une situation bien pire que celle française, mais quand même en France aussi, ça mérite quand même pas mal d'attention. L'augmentation de la demande dans les files actives, on a eu des récents rapports audits qui montrent qu'il y a au moins 10% des files actives d'augmentation. Il y a aussi une augmentation des hospitalisations sous contrainte, des soins sous contrainte suite à la nouvelle loi de 2011. Donc, ce sont des choses qui vont changer un peu le poids aussi de la prise en charge. La crise des savoirs et des pratiques, donc demain on parlera un peu mieux, mais donc le besoin évidemment et la mise en place des EPP qui nous aident à faire remonter des difficultés des usagers et des soignants aussi. Nouveau rôle des usagers des associations, donc ça c'est vrai, moi j'ai comme italien, je suis italien, psychiatre italien, je suis un peu plus habitué à ça, mais en France quand même, bon ça bouge beaucoup, ça a déjà pas mal bougé, mais il y a encore sûrement un changement dans la culture de certains collègues et certaines organisations de soins vis-à-vis du rôle des usagers qui est très important, mais peut dans certains contextes être vu un peu comme gênant, hein, il faut le dire. Crise sociétale, donc cette société liquide, je ne vais pas développer, mais donc c'est effectivement... le rôle, par exemple, de la famille qui change. Moi, j'arrive d'un pays où la famille, quand même, est très importante. Et il faut le dire, les patients restent souvent suivis grâce... Ils vont pas trop mal grâce au rôle de la famille et des aidants, hein, donc il faut le dire. Mais la société devient de plus en plus liquide, donc une société un peu des résultats. Donc, c'est plus difficile, quand même pour les familles et pour les aidants, de pouvoir s'occuper des personnes en difficulté atteintes par une maladie psychiatrique. Et après, la crise d'attractivité, bon, ça, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pas, peut-être même pas vrai, parce que ce sont des choses qui peuvent être liées à la salaire. Bon, c'est vrai qu'il faut en 1 minute juste pour avancer. Donc, 12 minutes, ça va. Bon, donc, une autre raison pour changer, c'est le fait que, donc, évidemment, nous commençons comme psychiatres, un peu, bon, ça, comme dans les autres spécialités, nous rendre compte que les patients ne sont pas tous pareils, ne sont pas tous égaux, et donc, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ça, c'est pas... Peut-être, ça peut être en même temps banal et révolutionnaire. Donc, la question du staging, c'est-à-dire, bon, comme dans la phase de la maladie, donc un patient qui est dans sa phase aiguë, c'est pas pareil par rapport à un patient dans une phase chronique. Un patient qui est dans son premier épisode n'est pas pareil par rapport à quelqu'un qui a déjà fait 10 épisodes. Donc, la durée de la maladie sans traitement aussi, ça peut compter. Donc, pouvoir intervenir au premier épisode quand il y a une durée de maladie sans traitement de 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est une chose. Intervenir après 5 ans de maladie et des prodromes sans traitement, c'est autre chose. La durée de la maladie tout court, l'âge au premier épisode, donc il y a plein de choses que nous commençons quand même à reconnaître, hein. La question du trouble de la personnalité qui commence aussi un peu dans le monde entier à se poser. Il y a pas mal de débats sur ça, mais nous voyons que les patients qui nous ont plus de mal à suivre et qui ont plus de mal à rester dans un parcours de soins sont souvent des patients atteints aussi par un trouble de la personnalité. Donc, le nouveau fonctionnement prémorbide, la réponse au traitement, etc., etc. J'avance parce que je n'ai pas beaucoup de temps. OK. Donc, la question qui a déjà été reprise ce matin, donc la sectorisation en France, bon, évidemment, en Italie, ce n'est pas exactement la même chose, mais donc j'ai appris à connaître la sectorisation. Il y a cet article que j'ai pu lire, et c'est intéressant, évidemment, sur la sectorisation. Mais ce qui, évidemment, était important de souligner, qui a été souligné, sont les disparités. Donc, on a vu même l'enquête de la revue Le Point, on montre très bien comme dans les différentes régions, il y a des disparités énormes dans la prise en charge et dans les pratiques. Qui ne sont pas, comme on disait ce matin, justifiés par des raisons ni diagnostiques ni de contexte. Au moins, les raisons de ces raisons, ces variables ne peuvent pas expliquer un écart de 5 fois. Mais même à l'intérieur, par exemple, de notre établissement, il y avait des différences dans les pratiques. Il y a encore des différences entre différents pôles, entre différents médecins. Donc, il y a des durées moyennes de séjour qui peuvent varier énormément. Il y a des territoires, des pôles sur lesquels ils ont investi sur certaines choses, sur d'autres ils n'ont pas investi, notamment la question de la réhabilitation, souvent c'est un point aussi délicat, et donc nous nous sommes posés cette question et nous avons essayé d'avoir une réponse. Donc là, c'est pour souligner, comme ça a déjà été dit, que la France dépense pas mal. Alors, il faut dire que les maladies mentales coûtent cher parce que sont quand même, la prévalence des maladies mentales est énorme, c'est-à-dire sont beaucoup de malades, des patients, beaucoup de personnes malades, mais chaque personne ne coûte pas si cher que ça. Si on compare à la cancérologie, où il y a moins de malades, mais qui coûtent, chacun coûte bien plus cher. Mais la France, en tout cas, dépense. Il y a pas mal de psychiatres, vous comparez à l'Italie, par exemple, mais bon, laissez tomber l'Italie parce que c'est un modèle qui, à mon avis, c'est difficile à comparer pour d'autres raisons, qu'on pourra peut-être débattre dans la suite. Mais vous voyez, par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre, donc ce matin, ça a été dit, c'est juste les États-Unis et la Suisse qui ont plus de psychiatres. Après, ce qui peut être intéressant, par contre, c'est là, vous voyez, le fait qu'il y ait en Angleterre, et ça, c'est demain, on pourra débattre aussi par rapport à ça, la question des métiers et compétences. Vous voyez, il y a des travailleurs sociaux, des travailleurs qui ont partie du travail, qui sont des infirmiers psy et des psychiatres aussi. Hein. Donc, et après, le taux de suicide. Il n'y a pas d'indicateur du bien-être d'une population. J'ai posé cette question la semaine dernière au professeur Lepin. Économiste, il m'a dit qu'il n'y a pas d'indicateur, mais si on regarde déjà cet indicateur-là où les hospitalisations sont contraintes, on pourrait dire, mais d'une façon, comme j'ai dit, pas correcte, que la France dépense beaucoup, mais qu'en réalité, il y a encore pas mal de choses à faire, parce que quand même, il y a pas mal de personnes qui se suicident, il y a 71 000 personnes sous contraintes, et donc, ce ne sont pas des bons indicateurs, je le dis comme ça, c'est plus. Je ne veux pas non plus me faire agresser. Je plaisante. Alors, donc, une autre minute pour la diapo. OK. Alors là, c'est un article intéressant. Donc, Tancel, là, c'est un professeur qui travaille à Vérone. C'est un modèle génial, en plus, parce que c'est un département de santé mentale universitaire, mais qui fait vraiment la psychiatrie avec des vrais patients et qui travaille depuis longtemps. Non, vous m'avez pas entendu, n'écoutez pas. Donc, et Tornikroff, c'est un autre, comme dire, un star de la psychiatrie quand même mondiale. Et vous voyez, donc, ils ont fait cet article, ils soulignent quand même, ça, c'est la thérapie communautaire, la santé mentale, donc la prise en charge communautaire dans l'avenir. Hein. Donc il y a 9 propositions. Les propositions sont, j'ai souligné quand même, très intéressantes. Bon, ça c'est déjà à voir combien de patients sont traités par rapport aux patients qui devraient être traités. Mais déjà, je souligne la question des soins qui sont acceptés par les usagers et les familles. Hein. Ça, c'est donc pas que des soins efficaces, donc il souligne les soins efficaces, mais acceptés aussi. Donc, c'est le discours qu'il faisait auparavant mon collègue de Oran. Il y a des personnes, donc nous, des établissements, pouvons établir des parcours de soins géniaux, magnifiques, mais après, la personne dit non, mais moi, je veux pas, ça m'intéresse pas. Donc, un bon équilibre entre les soins intra-hospitaliers, donc c'est souligné, et les soins quand même investir. Hein, ça, c'est plutôt délicat. Donc, investir dans les traitements reconnus comme efficaces et désinvestir de ceux qui ne le sont pas. Donc, nous continuons encore à utiliser des pratiques dans les hôpitaux qui ne sont pas efficaces, mais on le fait parce que souvent, le changement est vu comme on ajoute quelque chose et on garde tout ce qu'on fait. Hein, ce qu'on a fait jusqu'à là, on ajoute. On avance. Donc, les raisons donc, de ce changement, donc, j'ai dit contexte de crise, les évidences scientifiques, les prises en charge inutiles, inefficaces, iatrogènes et non acceptées par les usagers qui doivent être tombés un peu dans l'oubli, etc. Donc, le rôle... bon, on avance parce qu'on n'a pas le temps, mais bon. Donc, oui, non, parce que... En plus, je voulais même pas avancer, ça avançait tout seul. Non, on peut revenir, mais voilà. Donc, l'offre de soins qui doit être plus visible, cohérente, équilibrée, et les mots évaluation qui ne doivent plus causer des réactions allergiques aux psychiatres. C'est vrai que bon, il y en a encore. Parfois, ça change quand même. C'est vrai que les psychiatres, ils ont un peu du mal parfois à changer, mais après, quand ils échangent, ils s'investissent à fond, et donc, hein, c'est quand même ça fait. Penser, on peut être optimiste. Donc là, la question, vous voyez, pour revenir sur la question, bon, je ne reviens pas psychiatrie santé mentale, comme on disait, donc la psychiatrie, c'est vraiment la psychopathologie, sont les maladies, la santé mentale, c'est très, très, très large, ce matin, ça a été décrit, en réalité, si on regarde la définition de santé mentale de l'OMS, je pense qu'ici, dans cette salle, il n'y a personne qui est en bonne santé mentale, parce que c'est vraiment très, très, comment dire, pointu, c'est très haut niveau, il faut être épanoui dans la vie dans tous les domaines, donc c'est pas il faut pas prendre la définition en soi, c'est clair, comme ça a été bien dit ce matin. La question secteur territoire, donc le territoire c'est un ensemble de secteurs, on peut le dire comme ça. Après le secteur, on voit dans la nouvelle loi, ça sera plus donc défini d'une façon stricte, mais le secteur, donc c'est vrai que le secteur fait penser un peu plus à la psychiatrie, donc médical, au secteur médical, aux maladies. Si on élargit à la santé mentale, on peut élargir aussi au territoire, et donc la question de l'arbitrage, qu'est-ce que nous devons garder donc sur l'échelle sectorisée, donc l'échelle du secteur, et ce qu'on peut plutôt voir sur l'échelle territoriale. Hein. Donc c'est la question de la proximité qu'on verra après. Mais c'est vrai, on le disait, c'est moi, qu'est-ce que c'est un territoire? Alors, dans notre modèle, le territoire, c'est le territoire du pôle. Parce que, bon, à savoir que là aussi, il y a des différences, il y a des hôpitaux où un secteur un pôle, c'est pas le cas dans notre établissement, mais pour nous, donc dans ce cas-là, quand on parle de territoire, on parle plutôt du territoire du pôle. Et après, il y a des choses qui sont interpolaires, transversales et intersectorielles, on peut le dire comme, hein, etc. Donc, la différence entre prise en charge et parcours de soins. Donc, pour souligner le fait que pas tout, forcément tout, les personnes qui viennent en contact avec la psychiatrie nos services doivent pas tous forcément être pris en charge. Ça, c'est il y a des situations juste d'évaluation, donc ponctuelles, et donc il faut plutôt raisonner en termes de parcours de soins. La question ambulatoire mobilité, donc quel est le périmètre fonctionnel, par exemple des équipes mobiles. Nous avons développé pas mal d'équipes mobiles parce qu'il faut le dire aussi un peu pour opportunisme parce qu'il y avait des financements, mais après on se retrouve avec 3 équipes mobiles qui pourraient faire la même chose et personne voit le patient parce que chacun a son profil, donc c'est toi qui tu pourrais le voir, et donc c'est très difficile et c'est compliqué aussi de gérer tout ça. Et donc après la question donc d'aller partir de la coordination, plutôt aller vers la coopération, donc la question des compétences, des partages des compétences, des transferts des compétences, la question du médico-social. Notre modèle a des références, bon, sur les références évidemment classiques, et nous pensons d'être quand même là-dedans. Donc, ça, c'est juste pour souligner donc, qu'un pôle de psychiatrie générale donc, ne peut pas répondre à tous les besoins en santé mentale de la population, mais doit être impliqué directement, donc c'est la question de la responsabilité de la population, directement ou indirectement, dans toutes les phases du trouble mental, à partir de la promotion des facteurs de résilience, promotion de santé mentale, jusqu'à la prise en charge, etc., etc., et avec le travail aussi sur la stigmatisation. Donc là, on vient à notre modèle, donc pour vous dire... Il y a eu évidemment un travail sur l'intra qu'on ne va pas développer. Pour l'extra, donc, on a prévu 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau plus territorial. C'est le niveau des équipes mobiles et réseaux que nous avons appelé unité des psychiatries communautaires. Il y a un niveau 1,5, et je vous expliquerai pourquoi après, qui est le niveau de la réhabilitation psychosociale et des soins transversaux spécifiques, parce que dans chaque pôle, nous avons quand même, là c'est un modèle d'organisation du pôle de psychiatrie générale, adulte et enfant juvénile, pourquoi pas, mais il faudra l'adapter un peu, évidemment. Donc, la répétition dans chaque pôle, est, qui, c'est un niveau donc, qui est un et demi, parce que finalement, certaines interventions de réhabilitation, nous savons maintenant qu'ils peuvent intervenir dans les phases précoces et empêcher le développement des pathologies, de, par exemple pour les sujets à haut risque. Et après, la prise en charge psychiatrique des proximités sur le niveau 2. Donc là, vous voyez, on va... Voilà, ça va arriver, hein, il faut juste avoir un peu de patience. Voilà. Donc là, vous voyez, dans notre modèle, il y a les trois piliers. Hein, de l'organisation des soins extra-hospitalières. L'unité de psychiatrie communautaire, comme je disais, c'est une unité qui doit s'occuper directement ou indirectement de la promotion de la santé mentale, de la prévention, intervention communautaire en amont et en aval du CMP. Alors, ça, c'est la question des sujets qui ne cherchent pas les soins, donc essayer de les engager dans les soins, mais aussi des sujets qui étaient déjà soignés, mais qui ont interrompu leur suivi, ne sont pas ceux qui loupent 2-3 rendez-vous au CMP, ce sont des personnes qui disent, bon, moi, je ne veux plus rien avoir avec le CMP, je ne veux plus mettre les pieds là-dedans, et les familles se retrouvent quand même en difficulté parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Donc, ça serait donc plutôt la mission aussi de cette unité de travailler sur ce type de sujet. Donc, c'est une unité, là, donc, l'atout principal, vous voyez, donc, il y a 5 caractéristiques, l'atout principal de cette unité, c'est l'accessibilité et la mobilité. Hein, ce sont les deux choses dont sont pour la plupart des équipes mobiles. Dès qu'ensuite, je n'aurai pas le temps de détailler, sont donc là-dedans, il y a aussi des interventions dans les maisons de santé, la collaborative care avec les médecins généralistes. Donc, il y a plein de choses, plein d'idées qui nous essayons de pouvoir développer dans les prochains 10 ans, parce qu'il faudra quand même un peu de temps pour développer tout ça. Donc, la question de l'unité, comme j'ai dit, réhabilitation, bon, on va demain, le professeur Franck va quand même nous parler de réhabilitation cognitive et réhabilitation, donc là, je ne vais pas détailler, mais vous voyez que c'est un niveau où il y a quand même une partie des mobilités plus liées à des programmes de réhabilitation, mais c'est surtout le niveau de la technicité. Hein, et pas forcément, donc là, c'est un niveau territorial, ça peut être même un niveau transversal, interpolaire, parce que la question de la proximité, là, ça se pose beaucoup moins. Et au final, on a inventé, entre guillemets, ce service des soins sectorisés et externalisés, parce que là, par contre, on souligne le rôle du secteur, le rôle de la proximité, de la continuité, et donc l'activité typiquement du CMP, qui est le lieu de la prise en charge sectorisée des proximités à moyen et long terme. Je pense que je m'arrête là, parce que donc, ok.
Très bien, merci. Merci. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au niveau de ce modèle, au niveau des modèles, on puisse en discuter au moment de la table ronde. Je dirais qu'aujourd'hui, on est quand même à la croisée des chemins. On est bien à un moment donné où il faut peut-être dépasser les modèles, les vérités, les convictions. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'interroger de nouveaux modèles. Car, bon, il s'agit quoi, finalement ? De la force... de l'union des idées, des savoirs et des vérités qu'on a tous ensemble. On est dans une, je dirais, l'union des vérités, des énergies, comme ce type de réunion, pour nous permettre de changer quelque chose, en tout cas. Alors, dans ce qui a été évoqué, là, je voudrais dire juste tordre le cou à deux choses. C'est-à-dire, comme ça a été dit à deux reprises, moi, je me permets de le dire, sur l'évaluation et les classifications au niveau des maladies mentales, des psychiatres, la position des psychiatres. Moi, je crois que ça a beaucoup évolué. Je peux le dire par rapport à la place que j'occupe. Bon, alors, je vais aux différentes présidences que j'occupe. Moi, j'ai vu que les choses avaient évolué. Alors, je profite pour saluer mon ami Jean-Philippe Boulanger. Je ne le vois plus dans la salle, mais il est par là, voilà. Où on a fait ensemble, justement... différents congrès, des congrès importants comme le dernier congrès français de psychiatrie l'année dernière. On avait fait d'ailleurs des tables rondes sur les classifications et les choses bougent beaucoup au niveau de la psychiatrie, au niveau des psychiatres, au niveau de la relation, à l'évaluation, à la classification. Donc arrêtons de cantonner les psychiatres sur des données purement de sciences humaines et sociales et pas, disons, on rentre dans une démarche scientifique même si la psychiatrie est une discipline médicale. Deuxième chose, au niveau des chiffres, effectivement, la nécessité de changer par rapport aux différentes crises me permet d'insister sur, effectivement, les données chiffrées. Les données chiffrées, vous le savez, un Français sur trois rencontre un psychiatre, alors vous pouvez compter, un sur trois, rencontre un psychiatre durant sa vie. Pour l'OMS, 5 sur 10 maladies les plus préoccupantes, 5 sont les maladies mentales, schizophrénie, TOC, dépression, bipolaire, addiction. Et si on ne fait rien d'ici 2020, le bilan s'alourdira de plus de 50% de morbidité. Tout ça impose, effectivement, qu'on puisse unir nos énergies, nos idées et nos savoirs pour pouvoir changer les choses. Et dernier élément, par contre, ce qui est vrai, et je pense qu'il nous pose quand même un véritable problème, c'est les inégalités, c'est-à-dire on met en place un système public hospitalier, il y a des inégalités majeures qui sont non seulement des inégalités liées au dispositif de soins, liées aux pratiques des psychiatres, liées à l'organisation sur place. Ces inégalités, c'est vrai qu'il faut laisser la place à l'inventivité de chacun, au management et au leadership des psychiatres et des directeurs d'établissements. Je crois que ça, c'est le jeu. Mais les inégalités sont trop criantes pour que nous n'en fassions rien au niveau politique, en tout cas au niveau politique de santé mentale. J'en profite pour passer la parole donc à monsieur. Alors, monsieur Albert Lemaire, il est là ou pas? Eh bien, voilà, je cherchais monsieur Albert Lemaire pour la communication. C'est comment font nos. C'est ça?
Non,
comment
c'est
font pas. Nos voisins?
Non, c'est pas lui. Passion et famille. Passion et famille.
C'est les patients et les familles, le défi au quotidien des parcours de soins. Ah oui, parce qu'il y a une erreur?
Oui, c'est moi qui me fais tromper.
Allô, oui, je suis là.
C'est à vous la parole pour 12 minutes.
12 minutes. Bon, déjà ça marche. Et le crayon maudit. Dites-moi sur quelle chose appuyer. Et dans quelle direction? C'est celui du milieu, d'accord. Vous êtes là-bas, parfait. Merci. Bon, Pascal Mariotti m'a donc demandé de vous présenter une association qui œuvre au sein du CHI, donc qui s'appelle Vivre Ensemble le handicap psychique. Alors, ce que je vais vous présenter est relativement simple par rapport à des choses assez élevé en termes de réflexion que j'ai entendu ce matin, mais bon, voilà, je suis là pour ça. Donc, l'association, c'est très simple, c'est une loi de 1900, association type loi de 1901, qui a été créée en 2009. Alors là, ce que je voudrais dire, c'est que elle a été créée en 2009, on ne l'a pas écrit sur la diapo, mais elle a été à l'initiative d'une équipe de soignants. Donc, à l'origine, ce sont des soignants du CHAI qui avaient créé eux-mêmes une petite association pour gérer des offres de séjour de vacances à des patients en capacité d'être assez autonomes. Et donc, c'est parti de là. Et à un moment donné, cette équipe de soignants s'est dit « Mais pourquoi ne pas, finalement, demander quelque chose d'un peu plus large, d'autres activités à des parents ou des amis de patients ?» Donc, d'où cette association. C'est compliqué de parler devant. Il ne faut pas le toucher, mais on ne peut pas regarder. Bon, allez, on va y arriver. L'association donc propose un cadre d'accueil aux personnes prises en charge par les professionnels de santé du CHAI. Dans le but de faciliter leur intégration sociale en accompagnement des soins prodigués. Alors, il y a l'essentiel là-dedans, je ne vais pas en rajouter, je veux dire, c'est vraiment la vocation de notre association qui est décrite dans cette diapo. L'association propose, organise et réalise pour des patients désignés par les professionnels de santé. Alors là, je voudrais insister là-dessus. Tout au long de ma présentation, j'insisterai sur la relation très étroite qui existe entre les membres de l'association, les bénévoles et les professionnels de santé. Notre association ne pourrait pas exister sans une imbrication très forte avec les professionnels de santé. Et bien sûr, il y a la difficulté le corollaire qui est de ne pas tomber dans le soin. On verra que c'est assez facile à organiser après, pour peu qu'on s'en occupe au début. L'association recherche des ressources pour aller... Oui, merci, je serais mieux, merci. Parce que vraiment, je ne peux pas tourner la tête sans arrêt. Voilà, parfait. L'association recherche des ressources pour la réalisation des objectifs définis par elle-même et par les soignants. Elle facilite l'accès à des projets non recouvrables par la dotation financière publique, c'est-à-dire que s'il y a des projets qui peuvent être à l'initiative des soignants comme à l'initiative d'un bénévole, eh bien, l'association essaie de trouver des ressources auprès, de quels organismes. Et elle participe à des projets spécifiques mis en place par les soignants à la demande de ces derniers. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors, comment ça fonctionne? C'est un petit peu là-dessus que je voudrais insister. Donc, ça fonctionne au moyen de conventions, c'est-à-dire qu'il y a qui sont signées d'abord entre l'association et le CHAI, et puis ensuite avec les pôles du CHAI eux-mêmes. Donc la convention avec le CHAI, elle définit les principes de fonctionnement. Volonté commune de favoriser l'intégration sociale des patients, c'est vraiment notre raison d'être, essayer de leur permettre de trouver des de participer à des activités dans le milieu ordinaire, dans le milieu courant. Respect de la personne, confidentialité, devoir de discrétion, ça c'est important de l'avoir écrit parce que sinon ça ne pourrait pas fonctionner, c'est évident. Les membres de VELP s'engagent à ne pas interférer dans les soins et à respecter les règles de fonctionnement du CHAI. C'est aussi très important parce que forcément, une association comme la nôtre qui propose un certain nombre d'activités qui sont d'ailleurs toujours organisées également par des soignants, il faut bien qu'on marque clairement les frontières. Donc pas d'interférence dans les soins et respect du fonctionnement de l'établissement. Et la participation des patients aux activités proposées par VELP relève de la décision d'une équipe de soignants pluridisciplinaires. C'est-à-dire que ça a été un des points importants au moment de la création de l'association, c'est-à-dire que forcément, lorsqu'il y a eu un certain nombre de réunions entre les bénévoles potentiels et les soignants, et il a fallu vraiment bien insister sur le fait que nous, bénévoles, nous ne sommes là que pour proposer des activités, mais nous ne savons pas qui peut y participer, nous ne savons pas si ce serait bénéfique pour telle et telle personne. Et donc, ce sont les soignants qui savent si tel patient peut participer à telle ou telle activité, à quel moment, etc. Ça vous paraît probablement évident, mais il a fallu l'écrire assez fortement. Les conventions avec les pôles définissent le fonctionnement opérationnel. Alors là, on passe vraiment de plus en plus à des choses pratiques, mais qui sont indispensables pour que ça puisse fonctionner. Pour les activités ludiques et sportives et de vie quotidienne, il y a la liste des activités proposées par les bénévoles est validée par le médecin chef de pôle, toujours avec pour la même raison, nous ne sommes pas, nous, bénévoles, en situation de savoir si on peut proposer telle activité, si elle ne va pas être déstabilisante pour le patient. Et on a eu un certain nombre de... Pas de refus, mais c'est pas un problème. Hein. Des propositions pour lesquelles on nous a dit non, ça serait trop risqué. Il ne faut pas le faire. Bon, on ne l'a pas fait. Hein. C'est tout simple. Pour chaque activité, un soignant référent est désigné par le pôle et un bénévole référent est désigné par VELP. Le bénévole référent propose au soignant référent un calendrier de l'activité. Je passe assez vite hein, parce que c'est simplement pour bien structurer. Mais c'est quelque chose d'important. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Si vous partez dans le vague, ça ne marchera pas. Une semaine avant chaque séance, le bénévole confirme la date et donne toutes les précisions nécessaires, rendez-vous, lieu, difficulté de la randonnée, film prévu, etc. Là aussi, il est arrivé, par exemple, qu'on propose des films où on nous a dit non, ça c'est trop dur. Hein, pour les. Finalement, ça marche bien. Hein. Il faut viser au bon endroit. C'est terrible. Les soignants désignent les patients susceptibles de participer à l'activité, les sollicitent individuellement avant chaque séance. Alors ça aussi, ça a été un grand sujet de discussion. Est-ce que ce sont les soignants qui doivent faire cette part de travail? La réponse est oui, on ne peut pas le faire autrement. Il y a nécessité de conserver un contact entre les patients et les soignants pour ces activités. La liste nominative des participants est transmise au bénévole en charge de l'activité par le soignant référent. À l'issue de chaque séance, le bénévole envoie au soignant référent un compte-rendu du déroulement de la séance. Alors ce compte-rendu... Là aussi, il n'a pas de vocation médicale. Il consiste simplement à dire bah, « ça s'est bien passé, le film a bien plu, c'était pas trop dur. Éventuellement, telle ou telle personne a eu un peu de mal à rester jusqu'au bout parce que, on ne sait pas pourquoi forcément d'ailleurs, il était moins bien ce jour-là peut-être. » Donc il y a un retour en tout cas à chaque fois. Pour les projets spécifiques à la demande des soignants, les soignants établissent une demande. Il y en a eu peu, mais il y en a eu un certain nombre. Donc là, on veut fonctionner aussi dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a on souhaite avoir une demande écrite qui décrit bien le projet et puis le conseil d'administration, auquel participent d'ailleurs un certain nombre de soignants, pas seulement des bénévoles, rend sa réponse en fonction de la disponibilité des bénévoles et des possibilités financières. Mais c'est souvent la disponibilité des bénévoles qui est limitante, parce que, bien entendu, on n'est pas très nombreux. Bon, je passe rapidement les principales activités, hein, des sorties pédestres, des séances théâtre et contes qui là, par exemple, on s'est posé la question, est-ce que ça ne sera pas trop impliquant pour les patients? On nous a dit, bah, essayez, vous verrez bien, selon la, la façon dont l'animatrice, puisque finalement c'est une animatrice qui fait ça, s'y prend. Et puis ça marche vraiment bien, ça a beaucoup de succès. Et j'ai assisté à des choses où je ne m'attendais pas à ce que des patients puissent s'impliquer autant sans que ça les, sans qu'ils en aient une gêne. Bon, cinéma, piscine, l'été, sortie découverte, ça, ce sont des sorties de groupe. Tout ça, ça, ça plaît beaucoup. Hein, on poursuit parce que ça, ça leur plaît aux, aux patients. Sorties culturelles ou récréatives et participation à des spectacles divers. Ça, c'est à Grenoble. On emmène les patients et on assiste à des spectacles tout à fait ordinaires. Hein. Les projets soutenus. Alors, il y a le projet, de, donc, le, ce qui a été à l'origine de la création de l'association, les séjours de vacances. Hein, donc là... La, je vais parler du billard après. Je ne sais pas qui a parlé de billard, mais j'ai entendu. Les séjours de vacances, ça, c'est ce qui a été à l'origine de l'association. Donc, on poursuit, on aide au financement et on intervient au cours des séjours pour faire des sorties, des activités. L'initiation au billard, j'en parle très rapidement, mais c'est parce que c'est moi qui anime ceci. Je suis un joueur de billard et je me suis posé la question avant de proposer ça. Est-ce que ça ne va pas être... Justement, ça demande de la concentration, un petit peu d'adresse. Et surtout, vous ne connaissez peut-être pas forcément le milieu du billard, mais c'est un milieu assez fermé. Et quand j'ai proposé ça, je me suis dit, oulala, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Puis comment les patients vont-ils être perçus par les joueurs de billard eux-mêmes? Et j'ai été complètement bluffé parce que, d'abord, les patients qui viennent, ça leur plaît, ils apprennent à jouer, ils prennent plaisir. Et surtout, au sein de... du club dans lequel c'est fait, les adhérents du club comprennent maintenant ce qu'est un peu la maladie mentale. Et ça, ils se sont fait des amis au sein du club. Bon, il y a dans le même registre initiation au hockey et puis des jardins partagés. Alors là, ça a une autre dimension parce que ça nous met ça met en lien des patients avec également des personnes de la ville de Saint-Égrève. Et donc, c'est une association tripartite entre le CHAI, le CCAS de Saint-Égrève et l'association. Je suis dans les temps ?
Oui ? Oui, très bien, parfait.
Alors, 135 adhérents, donc c'est une petite association, hein, vous voyez bien, dont 58 patients, plus des parents, des sympathisants et des soignants du CHAI. C'est quelque chose de très important, ça, qu'il y ait des soignants. Les activités sont encadrées parce qu'il y a une vingtaine de bénévoles actifs. C'est une de nos difficultés. C'est pas original, hein. Je pense que toutes les associations, c'est comme ça. Un budget de près de 8 000 euros est soutenu par les communes de Saint-Égrève et du Fontanil, ainsi que le Conseil général, matière connue d'utilité générale. Alors, j'ai encore deux diapositives. Je le redis, l'association ne pourrait pas fonctionner sans une relation étroite entre les soignants et les bénévoles. À ce titre, des soignants ainsi que des patients participent au Conseil d'administration. C'est une des choses sur lesquelles j'insisterai au prochain CA parce qu'il y a un peu moins de soignants qu'au début et on sent que ça commence à manquer. VEL propose des activités en toute indépendance. Ces activités ne sont pas des soins, on le dit, on le redit, on le redira. Ils ont pour but d'offrir des moments de loisirs et de recréer du lien social entre les patients et le monde extérieur. Les soignants sont garants du choix des patients et de leur aptitude à participer aux activités proposées. C'est extrêmement important parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Les bénévoles offrent un peu de leur temps et de leurs compétences propres, non médicales, pour préparer et réaliser ces activités. Dans la dernière diapo, je voudrais juste insister sur le fait que ce sont des choses simples, concrètes, de terrain. Mais par les relations qui s'établissent tout au long du processus, l'association entre VELP et les soignants permet à des patients stabilisés, et ce sont un petit peu les limites d'une association comme celle-là, mais peut-être qu'on pourrait voir autrement, je ne sais pas, mais aussi aux bénévoles, c'est-à-dire aux familles souvent ou à des amis des patients qui font souvent partie de leur famille, donc de retrouver tout simplement des moments de plaisir partagés qui sont, bah, vous le savez forcément, qui sont souvent inaccessibles du fait de la maladie. Et l'ensemble contribue également, ça je m'en suis rendu compte, et je ne suis pas le seul, les soignants également, contribuent à une meilleure compréhension du processus de soins par les patients et leurs familles. Et là vraiment, je peux dire que ça a amélioré à la fois, je le dis vraiment, je le dis en face, ça a amélioré la vie de certains des patients, pas mal d'entre eux, mais aussi de pas mal de familles de patients. Voilà, je vous remercie.
Merci.
Merci pour ce retour d'expérience et qui marque le partenariat entre une structure hospitalière et une structure, une association qui vise à maintenir le respect et la dignité des personnes et des individus, et plus particulièrement des personnes atteintes de maladies mentales. On a vu à travers votre présentation le rôle du CCAS, c'est vrai, le rôle des élus et de la municipalité, qui souvent et heureusement font en sorte que les patients aient une place à part entière dans notre cité, en nous facilitant aussi les possibilités de partenariat et d'accès à des infrastructures, qu'elles soient sportives ou culturelles. Et votre association est reconnue d'utilité générale, donc un acteur du parcours de santé et de vie des personnes. Donc ce serait là aussi un champ qui me paraît intéressant à investiguer en matière de recherche, et notamment ce qui m'interpelle ici, c'est effectivement comment dépasser aujourd'hui la représentation que nous avons de la maladie mentale, puisque la clé, elle est quand même bien là pour faire la place à l'individu atteint de troubles mentaux dans notre société. Je vais ensuite passer la parole à... Ben, tu es là, pour nous donner un exemple... Ben, ça se passe chez vous, je crois aussi. L'exemple de l'Italie, c'est le hasard. Bruno, à toi.
Il n'y a pas de journée de la DESME sans parler de l'Italie, sans parler du voyage en Italie. Alors, j'étais tiré à la courte paille pour en parler, alors qu'il y a Dr Pierrot qui aurait pu très très bien en parler. Dominique Lachat, qui a été l'âme de l'organisation du dernier voyage dans le sud de l'Italie, qui aurait bien sûr pu en parler. Et puis, Pascal Mariotti, Antoine Riccardi sont aussi italianisants, donc voilà. Alors, il n'y a que des photos, en fait, c'est pour vous reposer un peu. Que des photos, en fait, qui ont été prises par Dominique, alors elles ne sont pas très belles, mais c'est juste des photos d'ambiance pour, histoire de partager avec vous cette belle tradition de la DESP, donc du voyage en Italie. Alors,
où est-ce que c'est en Italie?
Alors là, on l'a fait, ce voyage-là, donc c'est septembre 2013. On est allé à Napoli, à Aversa, à Salerno, à Capua et à Matera, et puis on est revenu par la côte amalfitaine. Donc c'était vraiment un très, très beau voyage. On a rencontré des équipes, donc alors l'organisation en Italie, je ne vais pas la décrire bien sûr cette organisation, mais c'est dans chaque zone de santé mentale, vous avez un centre de santé mentale, puisqu'il n'y a plus de lits d'hospitalisation, des services, un service de crise, de psychiatrie de crise et de diagnostic, et puis des structures résidentielles. Alors, je me demandais qu'est-ce que j'allais vous raconter pour illustrer un peu les images qui passent, voilà, qui vont passer en boucle. Hein, donc, en fait, j'ai relu les notes, puisque j'avais été tiré à la courte paille pour prendre des notes pendant ce séjour. Je remercie d'ailleurs le président d'avoir pensé à moi. Donc, il y a un petit diaporama qui a été fait sur ce voyage en Italie, un petit diaporama sympathique, mais qui ne peut être regardé que par ceux qui l'ont fait. Donc, on ne le partagera pas au-delà, parce qu'il y a des choses voilà, qui ne font écho que pour ceux qui l'ont vécu. Quand je lisais les notes, je me disais quels sont les trois messages que je peux retenir, moi qui découvrais finalement, puisque j'étais très naïf sur ce sujet, je découvrais l'Italie. Alors j'en ai découvert par la voix de Triestin. En fait, ce sont des Triestins, des psychiatres Triestins, qui, à un moment donné, 10 ans après la grande affaire, donc... De la loi 180, sont partis dans le sud de l'Italie. Ils sont partis dans le sud de l'Italie et ils ont prêché donc la bonne parole de la psychiatrie communautaire. Et ils ont regardé ce que ça pouvait donner, ce que ça pouvait faire. Et quand on les interroge, alors chaque jour, on a reçu les mêmes messages chaque jour. Alors c'est assez extraordinaire parce que quand on voyage, en plus, on ne parle pas italien, il y a un premier message qu'on reçoit lorsque c'est dit en italien, puis un deuxième message quand il y a un traducteur donc, qui nous dit quel est le sens du mot. Et donc le traducteur, c'était le docteur Massimo Marsili, que vous connaissez bien sûr, qui était à l'origine du voyage. C'est lui qui avait créé ce réseau avec les Triestins. Et donc chaque fois que l'on rencontrait des équipes, donc toujours de très belles rencontres, hein, on a été accueillis merveilleusement, eh bien il y a un mot qui revenait toujours, réhabilitation psychosociale. Pendant tout le séjour, on a entendu réhabilitation psychosociale. Et ce mot de réhabilitation psychosociale, donc Dr Franck va nous en parler beaucoup demain à travers la remédiation cognitive, eh bien, c'est le premier message qu'on a reçu dans le voyage en Italie, c'est-à-dire qu'un patient, c'est d'abord une personne Une personne, quand elle a des troubles psychiques, eh bien, elle est prise en charge par le dispositif de santé mentale. Et la première chose auxquelles pensent les équipes soignantes, c'est la réhabilitation psychosociale. C'est-à-dire, comment bricoler pour faire que cette personne-là puisse rentrer chez elle le plus rapidement possible, parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation, pour que le plus rapidement possible, elle puisse se débrouiller dans la vie quotidienne. C'est ça qui est... Donc c'est, alors, on peut appeler ça le projet de vie, mais je veux dire, c'est, là, c'est plus... C'est beaucoup plus important, parce que c'est la question, une question de survie. On ne peut pas la garder. Donc, on n'a pas le temps d'aller observer, avec tout l'art qui est le nôtre, les troubles psychiques dans nos structures de psychiatrie d'entrée, puis ensuite de prise en charge de long cours. Non, là, la personne va rentrer chez elle. Et donc, il faut qu'on s'intéresse de très près à sa vie quotidienne. Et donc, c'est la réhabilitation psychosociale, les outils de réhabilitation. Ça, c'est le premier message très fort. Le deuxième message très fort, quand on va à la rencontre des équipes, quand on fait ces belles rencontres avec ces équipes, dans les structures résidentielles, eh bien, c'est on voit des familles, on voit des usagers et on voit des professionnels qui travaillent ensemble. Alors, on découvre, bien sûr, au bout d'un moment quand même, ça nous fait un petit clin d'œil quand même avec certaines expériences hein, qu'on a pu vivre de psychiatrie institutionnelle, eh bien, que tout ce monde-là, ils travaillent ensemble et on a quand même l'impression que nous, eh bien, on a créé des clivages, même si on essaie par moments de les atténuer, eh bien, des clivages avec lesquels on vit de manière un petit peu lourde, alors que dans cette psychiatrie, finalement, ce n'est pas une psychiatrie aux mains nues, mais c'est une psychiatrie quand même où les moyens, si on regarde le pourcentage que vous avez montré, docteur Pierrot, tout à l'heure, qui sont quand même, les coûts ont quand même baissé énormément avec la fermeture des lits, eh bien, les équipes ont réussi à travailler avec les bénévoles. Alors, c'est une sociologie très différente de la nôtre, les familles, de manière beaucoup plus proche qu'on ne le peut faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est la deuxième leçon qu'on a reçue dans Voyage en Italie, c'est finalement, est-ce qu'il ne serait pas temps, je crois que les Canadiens l'ont fait, de travailler différemment avec les usagers, avec les bénévoles, et de remettre l'usager au centre de la prise en charge. Et puis le troisième message, et là c'est un message peut-être encore plus fort qu'on a reçu, c'est que finalement la psychiatrie communautaire, bon ben, il y a une forme d'idéologie d'ailleurs, la psychiatrie communautaire, c'est vrai, d'ailleurs la réhabilitation, c'est le fait qu'à un moment donné, on puisse accompagner quelqu'un qui a des troubles psychiques pour qu'il vive dans la cité comme une personne, un citoyen, et que, avec la plénitude de ses droits et de sa dignité. Donc effectivement, il y a l'idéologie. Mais cette idéologie, dans un contexte où l'argent se fait rare, mais finalement, cette idéologie, elle permet de serrer les rangs et d'être créatif. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que nous, avec notre psychiatrie, finalement, proportion gardée, où il y a encore un peu d'argent public, on a encore énormément de clivages, on a encore énormément de clivages entre nous, et c'est vrai que ces clivages-là font que la vision n'est quand même pas tout à fait partagée. Je veux dire, on a fait l'expérience il y a très peu de temps, parce que j'ai présenté l'année dernière le parcours de la personne en situation de handicap psychique avec Francis Jean, le délégué régional de l'UNAFEM Bourgogne. On a fait l'expérience, on a fait une réunion à Desmes, et on s'est mis autour d'une table, et puis on a classé les 12 actions qu'on a proposées au directeur général de l'Agence régionale de santé, les 12 actions en Bourgogne. Mmh. Et bien, quand on a classé les 12 actions, moi j'ai proposé comme méthode de classer de 1 à 12. On était 7 ou 8 autour de la table. Il y en a certains d'entre nous qui avons mis en 1 ce que d'autres ont mis en 12. Mmh. Voilà. Hein, donc certains ont mis en 2 ce que d'autres avaient mis en 11 ou en 10. C'est-à-dire qu'on est dans un fonctionnement aujourd'hui où c'est vrai que la vision partagée, on a encore du chemin à faire pour arriver à en faire une réalité. Voilà, le trois messages de l'Italie, finalement, c'est un message autour de la réhabilitation psychosociale, un message autour du travail avec les familles et les usagers et les professionnels de manière beaucoup moins clivée, et un troisième message que, finalement, la créativité peut exister lorsqu'on a peu d'argent public, et c'est peut-être ce qui nous attend quand même.
Merci beaucoup. Alors, oui, juste un petit mot donc, par rapport à ce que vous dites. Alors, sur la réhabilitation psychosociale, je me permets de le dire parce que, disons, effectivement, dans mon service, on en fait depuis peu, d'ailleurs, depuis 5-7 ans. Il faut savoir qu'en France, il y a moins de 10% des services qui en font. Et moi, je crois, si vous voulez, s'il y a des psychiatres dans la salle, je suis prêt à évoquer ce sujet, parce que ça réévoquait pour nous, dans l'ancien temps, ce qui était la réadaptation, et donc quelque chose de très, très asilaire, très conique, alors que ce n'est pas du tout ça. En fait, d'après Saraceno, qui est quand même, disons, le père de la réhabilitation, le maître de la réhabilitation. Disons, la réhabilitation, c'est des pratiques en attente des théorisations. Et ce que vous avez bien noté, ce qui existe, c'est qu'en fait, la réhabilitation psychosociale, c'est bien un état d'esprit. C'est vraiment comment, effectivement, quel rapport on a avec le patient et avec les familles, un rapport qui se trouve de co-responsabilité, de transversalité, avec un respect mutuel. Et on est dans la transversalité qui est un nouveau rapport. Donc, je crois que c'est aussi ça, c'est-à-dire la réhabilitation psychosociale, c'est une nouvelle étape aussi pour la réhabilitation psychosociale, et ce qui vient, le vent qui nous souffle d'Italie nous permet de voir aussi les patients dans une vision globale et avec un état d'esprit différent. Après, effectivement, la question de la citoyenneté, elle est pleine et entière. Je crois qu'elle permet aussi de pouvoir aborder les choses de façon très différente avec les patients, notamment avec la question de l'éducation à la santé. Je crois que au niveau des patients, si on travaille davantage les associations d'usagers, et là on va les faire monter sur, disons, sur la table, Claude Fitchentine, Claude, et puis pas sur la table, sur l'estrade.
Sur l'estrade.
J'ai pas dit sur l'estrade, Claude, et puis.
Alors, nous avons donc.
On a trois intervenants, ou quatre qui vont monter. Donc, je vais laisser, j'ai été laissé, voilà, les évoquer. Mais je crois que c'est vrai qu'on est dans une autre étape. Et c'est pour ça que la réhabilitation psychosociale avait connu, après une montée, une descente, et à nouveau, a une nouvelle vie devant elle, et grâce à l'exemple de l'Italie.
Je peux juste dire un mot, oui, par rapport à ça, parce que dès qu'on parle de modèle, ça ne fonctionne pas.
Si, non. Non.
Ça marche pas. Non.
Ça marche. Mobile. On va essayer mobile peut-être.
Bon. Celui-ci.
Je voulais juste dire un mot parce que dès qu'on parle du modèle triestant de la réhabilitation psychosociale, je voulais juste souligner que quand les triestants parlent de réhabilitation psychosociale, il faut faire attention dans le sens c'est la réhabilitation psychosociale, mais très poussée réinsertion sociale. Beaucoup moins par rapport à la France, poussée réhabilitation cognitive et intervention hyper technique, très pointue. Ça, il faut le souligner parce que c'est pour ça qu'après, il n'y a pas ce clivage, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, comme on a bien vu, donc, monsieur le maire et les associations aussi, jouent un rôle fondamental, directement, et c'est plus simple de coordonner tout ça. Donc, ce n'est pas la réhabilitation psychosociale, comme nous pouvons l'entendre, intervention hyper technique, il y a aussi ça, mais beaucoup moins développé ce côté-là, plutôt beaucoup développé. Après, la dernière chose, après je laisse la parole, c'est la question présente de Trieste, la région, donc on a vu qu'en Italie dépense le 100% des dépenses de santé, mais la région de Trieste dépense le 8% pour la santé mentale. Donc, et il y a des disparités énormes dans différentes régions en Italie, donc il faut faire attention parce que vous avez vu un bon modèle. Parce que même dans la région Campagne, donc la région de Naples, il y a des départements qui sont très dépourvus, et où il y a une psychiatrie, il faut dire, un peu asilaire, et des départements très pointus sur le modèle triestant.
Comme en France, quoi.
C'est un peu, oui. Peut-être même pire.